L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne L'AJT du local. Aujourd'hui, vous entendrez le témoignage d'une mère de famille qui accueille chez elle des personnes en situation de handicap, un métier d'accueillant familial encore méconnu. Une association mayennaise s'engage contre les déserts médicaux et engage une action en justice contre l'État pour accès inégal aux soins. Et le premier épisode d'une série autour de l'agriculture bio et l'agroforesterie avec Christophe Piquet qui a planté 1000 arbres dans l'une de ses parcelles. Mais tout de suite, un point sur l'actualité. Depuis ce matin, le port du masque est étendu à 68 communes en Mayenne. Sont concernées les communes de Laval Aglo, du pays de Château-Gontier, Ernée, le pays de Cran, Mayenne Communauté, auxquelles s'ajoutent Évron et Mélay-du-Maine. Masque obligatoire aussi sur tous les marchés et dans un rayon de 50 mètres autour des établissements scolaires, des crèches, des gares ferroviaires et routières, sans oublier les lieux publics fréquentés comme les arrêts de transport en commun, les parcs, les jardins et autour des plans d'eau. Autre restriction prise, 30 personnes maximum autorisées dans les salles des fêtes, de spectacles, les salles polyvalentes, de réunions et de conférences. Le préfet Jean-Francis Treffel appelle également à limiter les regroupements privés comme les fêtes de famille ou les soirées entre amis à moins de 30 personnes. Pour rappel, le taux d'incidence en Mayenne est de 73,4 pour 100 000 habitants et le taux de positivité s'élève à 6%. À la charcuterie Thiol en Mayenne, à Mayenne, un administrateur nommé pour au moins 2 mois, maître Maxime Le Breton du Mans, est arrivé aujourd'hui sur place. Depuis le décès du patron Georges Thiol début septembre, la charcuterie du même nom n'avait plus de dirigeant. Le fils unique de Georges Thiol, Laurent Thiol, a expliqué ne pas être intéressé pour reprendre les rênes de l'entreprise. Le tribunal de commerce de Laval a donc nommé un administrateur provisoire pour 2 mois minimum. Il est chargé d'analyser la situation pour voir si l'entreprise peut trouver un repreneur ou si elle doit être placée en redressement judiciaire. Joël Balandreau, nouveau président de l'association des maires de Mayenne. Le maire d'Évron succède à Alain Dillis, le maire de Saint-Germain-de-Coulamer. Joël Balandreau est aussi président de la communauté de communes des Couévrons, conseiller départemental et président de Mayenne Tourisme. Et puis attention, si vous circulez sur le chemin de halage cette semaine, entre l'écluse de Bellepoule et le plan d'eau de Changé, la circulation est interdite jusqu'à ce vendredi inclus. En cause l'aménagement d'une frayère. La déviation se fera par le chemin empierré qui longe la parcelle. Et puis on ouvre une page sport avec le Mayennais Gabriel Bordier qui a déjà décroché son ticket pour les JO de Tokyo. Grâce au chrono obtenu samedi à Poděbrady en République tchèque, l'athlète de l'US Saint-Berthevin a pulvérisé son record personnel en terminant les 20 km de marche en 1h20 minutes et 9 secondes, ce qui lui assure une place aux prochains Jeux Olympiques. En karting, petite déception pour le Lavallois Charles Fio, arrivé 3e des championnats de France sur ses terres ce week-end. Et à noter aussi en foot la qualification de 2 équipes mayennaises pour le 5e tour de Coupe de France. Entrame a battu Rezé, 2 divisions au-dessus, et l'ancienne de Château-Gontier s'est imposée contre l'Hermenau. Un métier prenant mais enrichissant et propice au partage, celui d'accueillant familial. 43 familles ont fait ce choix en Mayenne, celui d'accueillir chez eux des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, que ce soit de manière temporaire, pour une journée, une semaine ou permanente. Le conseil départemental organisait la semaine dernière une tournée pour présenter cette mission, car les besoins sont importants. L'occasion d'écouter le témoignage d'Adélaïde Trochon. Depuis le mois d'août, elle propose 2 places en accueil temporaire pour des personnes en situation de handicap.
C'est une réflexion qu'on a eue en famille depuis déjà un certain temps, en fait, et on a voulu le concrétiser suite à des événements familiaux qui ont fait qu'on voit la vie un peu différemment et on voulait proposer autre chose, en fait. Moi, j'accueille des personnes une journée, une nuit, une semaine, 15 jours. C'est très variable, surtout sur le temporaire. Et puis après, ils partagent la vie de la famille, puisque j'ai 3 enfants. Sur la journée, du matin au soir, ils participent à nos activités. Mais après, je pense qu'une fois que le roulement est fait, entre guillemets, les personnes, on les connaît, quoi. Et puis finalement, il y a ce petit lien qui s'installe après très rapidement, quoi. Après, rien qu'un sourire, moi, ça me va. Enfin, de les voir contents, ça me va, quoi. Après, on se rend compte, moi qui ai travaillé en établissement, des petits plaisirs, en fait, qui nous paraissent banals, pour eux, sont très importants. L'odeur de cuisine, par exemple. Des fois, on n'a pas ça forcément dans les établissements parce que c'est des plats qui arrivent et que c'est juste de la réchauffe. Et nous, dans notre quotidien, on ne se rend pas compte de ce que ça peut procurer, quoi, finalement. Après, on peut plus s'adapter quand on a deux personnes à accompagner que 30 ou moins. Mais... Et ce qui est intéressant, c'est aussi tout l'enrichissement que ça peut donner à notre famille aussi, quoi. Ça a des deux sens, quoi. Ça permet aussi aux enfants de voir la différence de handicap et tout ça, et puis de la tolérance. Enfin, je trouve qu'il y a énormément de choses qui se travaillent sur ça, cette notion-là et tout ça. Voilà, on peut être différent et puis on fait plein de choses, quoi. Parce que justement, c'est ce qu'ils recherchent, quoi. Une coupure, parce que voilà, des fois, ils peuvent être dans des structures avec beaucoup de personnes et des fois, on n'a plus envie de voir son voisin, quoi. De changer un peu sa ressource aussi, quoi. Donc ça, c'est chouette, quoi. Enfin voilà, on compte pas nos heures, hein, ça c'est sûr, au niveau salaire, etc. Mais quand on voit la joie que ça apporte, bah en fait, ça n'a pas de prix, quoi.
48 personnes sont accueillies grâce à ce dispositif dans le département. Des formations sont proposées aux familles avant et pendant l'accueil. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter la maison départementale de l'autonomie. La Mayenne est le troisième désert médical de France. Une association créée sur le territoire il y a 4 ans tire aujourd'hui la sonnette d'alarme sur la situation dans le département et ailleurs. On l'entendra juste après Jane avec Inspecta.
On my chest, I don't want a yoga jet. All I want is your respect. Imposter, inspect, I got too much on my plate. I don't want a yoga jet. All I want is your respect. Try me, try to buy me. Your technology, illogic. I want a new start, do something smart with my art. My only motivation is to write with the right emotion. I don't care about nothing else but music going on. Lock him down, lock him down, down, down. Lock him down, lock him down. I got too much on my chest. I got too much on my plate. Lock him down, lock him down, down, down. Lock him down, lock him down. I got too much on my chest. I got too much on my plate. Sometimes I wish I could be who I wanna be and not who they want me to be. Just make it all easy, hey, yo. I got to get away, yo. But I don't give a fuck about what you think of me, yo. Charm me, confuse me, elude me with your fake wings. We both know who you really are. Imposter, you're not a star. My only motivation is to write with right emotion. I don't care about nothing else but music going on, yo. Lock him down, lock him down, down, down. Lock him down, lock him down. I got too much on my chest. I got too much on my plate. Lock him down, lock him down, down, down. Lock him down, lock him down. I got too much on my chest. I got too much on my plate. Lock him down, lock him down, down, down. Lock him down, lock him down. I got too much on my chest. I got too much on my plate. Lock him down, lock him down, down, down. Lock him down, lock him down. I got too much on my chest. I got too much on my plate.
C'était Jane sur l'autre radio, vous écoutez l'agité du local. La Mayenne fait face au manque de médecins et ce n'est pas nouveau, mais l'association des citoyens contre les déserts médicaux va lancer une action en justice contre l'État pour accès inégal aux soins. Explication avec le président de cette association et tour d'horizon de la situation en Mayenne. Donc Maxime Lebigot, vous êtes le président de l'association des citoyens contre les déserts médicaux, une association qui a été lancée en Mayenne il y a 4 ans. Et prochainement, vous allez lancer une action en justice contre l'État pour un accès inégal aux soins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette action ?
Pourquoi on lance cette action avec l'appui de Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement et avocate parisienne? Parce qu'on trouve que c'est anormal que la population française soit traitée de deux façons différentes. C'est-à-dire que, premièrement, on paye tous de la CSG avec nos impôts, qui permet de financer la sécurité sociale. Et nos impôts permettent de financer les maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont érigées par les communes, par les départements. Et aussi, nos impôts permettent de payer les études des médecins, comme beaucoup d'autres études. Donc voilà, là-dessus, on est tous égaux. Sauf que on peut se rendre compte que dans une grande partie de la France, 9 millions de Français ne peuvent pas bénéficier d'un accès aux soins de façon optimale.
Donc, un accès aux soins de façon optimale, pour reprendre vos mots, ça veut dire ne pas forcément avoir de médecin traitant, ne pas forcément avoir accès aux médecins spécialistes, plutôt.
C'est vrai que c'est pas normal d'attendre un an et demi pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo, par exemple, ou 6-9 mois pour un rendez-vous chez un dermato. On comprend très bien qu'ils sont débordés, mais voilà, on voit dans certains autres départements en France, autres que la Mayenne ou la Sarthe ou l'Orne, où est l'association, on peut voir que dans les Hautes-Alpes, par exemple, il y a deux fois plus de médecins pour 10 000 habitants qu'en Mayenne, par exemple. Donc voilà, c'est pas normal lorsqu'on arrive à Laval, par exemple, on appelle un médecin pour avoir un suivi. Non, désolé, je peux pas vous prendre, j'ai déjà beaucoup trop de patients, quoi.
Et ça arrive souvent en Mayenne,
c'est,
en tout cas en ce moment.
C'est le quotidien des Mayennais, pas que Mayennais, bien évidemment, mais c'est le quotidien, oui, des gens qui arrivent à Laval, qui essayent d'avoir un médecin traitant, qui malheureusement se font refuser parce que voilà, les médecins sont débordés. Ce qui est normal, ils veulent avoir une vie de famille aussi, ne pas finir à 23h30, commencer à 7h, 23h30, ça c'est terminé, c'est tout à fait logique. Ils veulent ne pas faire du client, ils veulent faire du patient, ils veulent pas faire du chiffre, pour eux c'est pas ce qui compte. Donc ils veulent faire vraiment une bonne prise en soin, donc c'est pas en faisant 15-20 clients à l'heure qu'ils vont faire du bon soin. Une relation de soins, c'est d'humain à humain, c'est pas bonjour, merci, au revoir, non, c'est bonjour, comment allez-vous, qu'est-ce qu'il y a, hein. C'est voilà, c'est discuter autour de la personne, ne pas voir que son problème propre, parce que des fois la personne vient pour quelque chose, mais si on gratte un peu, on peut découvrir d'autres problématiques, donc...
Mais c'est pour ça que parfois on se dit le médecin généraliste, il est toujours en retard, mais il y a bien des raisons
c'est
pour
ça.
Lesquelles il peut être
c'est
en retard.
C'est ça, une consultation, c'est pas 5 minutes, quoi, sauf pour éventuellement un renouvellement chez quelqu'un qui est hyper stable, oui, et encore.
Et encore, oui, ça peut être plus loin. Donc, en tout cas, d'où l'importance de prendre le temps. Et aussi, alors j'avais lu, je sais pas si le chiffre est exact, mais un médecin sur deux en Mayenne refuse des nouveaux patients, justement. Donc, qu'est-ce que vous pourriez proposer pour justement faire face à ce problème?
Nous, c'est vrai que quand on est contacté par la population qui se voit refuser l'accès à un médecin, déjà, on essaye de l'orienter vers le service médical de proximité Henri Dunant, là, qui est une collaboration conseil départemental de la Mayenne et Laval Agglomération, avec les médecins retraités. C'est déjà une solution provisoire pour l'accès à un médecin, ou c'est vrai qu'on essaye des fois de voir aussi avec un des médecins qui est dans l'association pour voir si ponctuellement il peut prendre le patient ou la patiente en charge. Et évidemment, si c'est une urgence, on dit à la personne de contacter le 15. Voilà, ça c'est déjà des petites choses qu'on essaye de faire, autant ici que dans la Sarthe ou même l'Orne. Après, c'est vrai que nous, s'il y avait assez de médecins partout en France de façon équitable, ça irait beaucoup mieux. Si la disparité entre la Mayenne et les Hautes-Alpes, comme je disais tout à l'heure, n'était pas en Mayenne, on est à 6,2 médecins pour 10 000 habitants. Dans les Hautes-Alpes, on est à 12 médecins pour 10 000 habitants. C'est pas l'association, c'est pas moi qui le dis, c'est des chiffres officiels des ARS, quoi.
Donc d'où justement cette inégalité des territoires.
Tout
et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça?
Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est voilà, comme pour les pharmacies, comme pour les infirmiers libéraux, comme les kinés auparavant, ou les notaires, toutes ces professions-là sont régulées dans leur installation. Il y a un maillage national de toutes ces professions-là, pourquoi pas pour les médecins, quoi.
Et pourquoi ça n'est pas déjà fait, selon vous?
selon l'association et puis les médecins qui siègent à l'association, clairement c'est le lobby de l'ordre des médecins au niveau national et puis des syndicats de médecins. Et puis tout simplement à l'Assemblée nationale, il faut quand même savoir que la commission des affaires sociales est composée de 19% de médecins. Donc évidemment, ces professionnels de santé ne vont pas acter quelque chose qui va à l'encontre des avis, des positions des syndicats de médecins, quoi.
Donc justement, ça va pas venir en tout cas d'une proposition de loi du haut des députés.
Non, parce
députés.
Qu'on peut voir que les propositions de loi, notamment que Guillaume Garot a pu faire à de nombreuses reprises, ont été toutes retoquées déjà en commission des affaires sociales, puis dans l'hémicycle. Nous, on était auditionnés à chaque fois avec d'autres associations nationales comme UFC Que Choisir ou France Asso Santé, avec d'autres médecins aussi, députés qui étaient présents. Évidemment, ils essaient de nous prouver par A plus B comme quoi ça ne marchera pas, quoi.
Et donc, c'est un problème aussi, peut-être, d'attractivité de la Mayenne ou vraiment juste c'est une mauvaise répartition, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets d'ailleurs, des
médecins.
Pour
moi, c'est une mauvaise répartition. Moi, je ne suis pas Mayenne d'origine. Je suis arrivé en Mayenne il y a 9 ans. Je m'y plais très bien. Nous, clairement, c'est une mauvaise répartition. C'est pas parce que là, avec le numerus clausus qui a été supprimé, on va former de plus en plus de médecins. Il faut attendre 10 ans déjà pour qu'ils soient formés. C'est pas parce qu'on aura plus de médecins qu'ils seront mieux répartis sur le territoire. Il y aura peut-être plus de chances qu'ils soient mieux répartis, mais si on les régule pas dans l'installation, comme les enseignants, ils peuvent pas les exercer n'importe où lorsqu'ils sortent des études. La police nationale, c'est pareil. Toutes ces professions-là, ils en sont pas marres, bien au contraire. Il y a pas assez de policiers partout, malheureusement. Il y a pas assez de profs partout, malheureusement. Mais tout le monde en a. Que là, on peut voir que nous, en Mayenne, on a perdu 34 médecins depuis 5 ans. Depuis 5 ans, 34 médecins en moins, 19 sur Laval en moins depuis 5 ans. Si dans les 5 à 10 ans, il n'y a rien qui est fait, on a 66 médecins en Mayenne sur 191 qui ont plus de 60 ans.
Actuellement.
C'est ça, 60 ans. Évidemment, beaucoup de médecins travaillent jusqu'à 70 ans, mais ils ont le droit à une retraite comme tout le monde. Ils ont le droit de profiter de leur famille, parce que c'est souvent ces générations-là qui ont fait beaucoup, beaucoup de sacrifices au niveau de leur vie familiale. Donc, c'est pas logique qu'ils continuent à travailler à 70 ans, quoi.
Et donc, justement, pour éviter qu'ils continuent de travailler longtemps et qu'en tout cas, il y ait petit à petit, d'année en année, de moins en moins de médecins, vous préconiseriez un système peut-être où on dit, par exemple, là, cette année, en Mayenne, on a besoin de 10 médecins, je dis n'importe quoi, mais juste pour donner un exemple. Ce serait sous un système comme ça ?
C'est ça, à la sortie, quand l'étudiant ou l'étudiante rentre à la fac de médecine, qu'il a passé sa première année, on ne le prend pas en traite, on lui dit clairement que dans 10 ans, quand il sera diplômé, à la sortie de ses études, il aura une grande liste, une grande carte de la France avec des zones de couleur, par exemple, comme c'est la mode en ce moment, avec des zones rouge écarlate où il y a besoin de médecins de façon importante. Il y a 30 postes à prendre. Dans d'autres secteurs, c'est un peu moins rouge. Bon, il y a besoin d'une dizaine de médecins. Et des secteurs où c'est blanc, il y a suffisamment de médecins. Voilà, ça permet quand même d'avoir un panel de choix assez important. On va pas l'envoyer à Trouffillon-les-Oies où il y a personne. Il n'y a pas d'école, etc. Mais déjà, dans la situation, on est conscient que malheureusement, on ne pourra plus avoir un médecin dans chaque commune. Ça, c'est terminé, c'est dépassé. Mais je ne sais pas, Laval, c'est quand même 50 000 habitants. On a le TGV, on a l'autoroute. C'est quand même pas le trou du monde perdu, quoi.
Mais est-ce qu'en Mayenne, en tout cas, selon vous, le problème principal se situe vraiment à Laval ou c'est même parfois dans des endroits peut-être un peu plus ruraux où là, pour le coup, quand les gens sont obligés de prendre leur voiture et de faire une demi-heure, voire plus, pour avoir un médecin, c'est un peu compliqué.
La problématique est double en Mayenne parce que c'est vrai qu'à Laval, il y a eu du retard de prix sur la création de maisons de santé pluriprofessionnelles. C'est quelque chose qui attire beaucoup les jeunes générations, ce qui est normal de travailler en collaboration avec d'autres professions paramédicales et médicales. Il y a eu du retard de prix. Voilà, ça c'est un peu, on va dire, faute partagée entre les municipalités et les médecins, voilà. On en est tous conscients. Après, dans les petites communes, oui, c'est sûr que c'est problématique pour les personnes âgées, parce que les médecins font de moins en moins de visites à domicile, parce que voilà, clairement, c'est soupi, hein, comme nous, les infirmiers, lorsque les collègues sont en libéral. C'est sous-payé, tout ce qui est kilomètres remboursés, etc., c'est largement sous-payé, donc c'est pas logique. Mais ces petites communes-là ont vite pris le pas sur la création des maisons pluriprofessionnelles de santé, de travailler en collaboration. Ils ont vite pris le pas parce qu'ils sentaient que c'était quelque chose qui pouvait être attractif. Le conseil départemental est attractif aussi avec tout ce qui est mis en place avec le plan Ambition Santé 53, les soirées d'intégration des internes avec le conseil départemental, l'ordre des médecins, etc. On voit bien à l'hôpital de Laval, il y a de plus en plus d'internes aussi d'accueillis. Il y a plein de choses de fait. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression qu'en France, c'est un peu la course au département qui va être le plus attractif au niveau financier presque. Quelle mairie aussi va faire la plus belle maison de santé ? Non, c'est pas ça. On considère qu'il n'y a pas besoin de dérouler le plus beau tapis rouge avec les plus beaux traits dorés dessus. Il faut juste que l'État prenne ses responsabilités, que le gouvernement prenne ses responsabilités et qu'il assure de façon équitable l'accès aux soins, quoi.
Et donc, qu'il y ait une contrainte presque à aller dans certains territoires ou justement, à l'inverse, maintenir un peu la carotte, entre guillemets, financière pour aller dans un territoire où vraiment il y aura un besoin urgent de médecins.
La carotte, elle existe déjà avec toutes les aides incitatives multiples qui existent, comme les contrats à l'installation avec 50 000 euros à l'installation, en contrepartie, doivent rester 5 ans. Mais il y a des dérives, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des dérives, il y a des médecins qui prennent les 50 000 euros, ils font leurs 5 ans, et puis bah, au bout de 5 ans, ils s'en vont, quoi.
Donc ça ne résout pas le problème.
Faut, voilà. Ils vont nous dire, les personnes qui sont contre la régulation de l'installation, mais c'est pareil, au bout de 3 ans, si on vous obligez les médecins à rester, ça se trouve, au bout de 3 ans, ils vont se barrer. Mais voilà, il faut essayer quelque chose de nouveau qui va aussi en complément des aides incitatives. L'association, on dit pas qu'il faut supprimer toutes les aides incitatives, parce qu'il y a des choses qui permettent aussi à toutes les classes de la population de faire médecine. Les contrats d'engagement de service public avec les 1200 euros dès la deuxième année, en contrepartie, si la personne l'a eu pendant 3 ans, elle doit rester 3 ans dans un secteur sous-doté, ça c'est très bien. Mais il faut faire attention aux dérives, quoi. C'est ça le problème, c'est que bah, malheureusement, plus il y a de dérives, bah, plus les sanctions peuvent être lourdes derrière, quoi.
Oui, en tout cas, selon vous, ça ne suffit pas, ces incitations.
Toutes les aides incitatives et les exonérations fiscales, c'est le rapport de Philippe Vigier, député de l'Eure-et-Loir, qui dit que c'est 225 millions d'euros par an. C'est juste énorme. Ça doit être 36 millions, si mes souvenirs sont bons, d'exonérations fiscales. Mais je pense que dans la conjoncture actuelle, je pense que les 36 millions d'euros, l'État en aurait bien besoin, quoi.
Pour éventuellement voilà, en faire autre chose. C'est vrai que donc là, forcément, on est en Mayenne, donc on parle de la Mayenne, qui est le troisième désert médical en France. Mais lorsque vous avez lancé cette association il y a 4 ans, depuis, elle a fait des petits. J'ai envie de dire, il y a des antennes dans d'autres départements. Vous avez été contacté justement par d'autres territoires qui sont un peu dans la même situation.
C'est vrai qu'on a été contacté par l'Orne aussi, voilà, proche voisin de la Mayenne, hein, parce qu'il y a tout un bassin de vie sud de l'Orne, nord Mayenne, là, qui ont vu des médecins partir. Et c'est un bassin de 25-30 5000 habitants qui étaient sans médecin. Donc c'est juste pas possible. À presque une demi-heure d'un hôpital, soit orné, soit mayenné, c'était juste pas possible. Donc on a créé une antenne dans l'Orne. Et là, depuis le mois de mars, on a une antenne dans la Sarthe qui est tenue par une médecin rhumatologue de la Sarthe, libérale, je tiens à le dire, qui est vraiment dynamique, avec composé de 4 médecins dans le bureau de cette antenne. Donc on sent qu'il y a une dynamique aussi, on sent que les médecins commencent à prendre conscience que bah, voilà, le pur libéralisme de la profession de médecin, c'est peut-être dépassé, que voilà, c'est quand même l'État qui finance les études, même si beaucoup de médecins rétorquent que non, qu'ils ont payé leurs dettes en étant internes. On en est conscient, mais avec le Ségur de la Santé, il y a eu aussi des augmentations de salaire pour les internes, c'est une bonne chose. Et puis, on a eu des contacts aussi dans les Vosges, une association vosgienne comme la nôtre qui souhaite probablement rejoindre l'association là, dans les prochaines semaines. Dans le Lot aussi, et puis voilà, des contacts dans le Nord. On sent que les gens. On aura le bol de pouvoir ôter un an et demi pour un rendez-vous ophtalmo. On sent que les gens, ils en ont marre d'être matraqués fiscalement et derrière, ils n'ont pas le service adéquat, donc c'est pas possible. Il faut oublier que c'est 9 millions de personnes, c'est 9 millions d'électeurs. Faire attention.
Donc c'est vrai que 9 millions de Français, ça paraît énorme, en tout cas dit comme ça. D'où aussi cette action que vous voulez lancer contre l'État. Là, ça en est où justement, plus concrètement?
Donc là, on a écrit à l'ensemble des mairies de la Mayenne et de la Sarthe, là, prochainement de l'Orne, avec voilà, un petit résumé de l'association, qu'est-ce qu'on souhaite faire avec Corinne Lepage, hein, l'avocate parisienne. Et clairement, on a demandé aux mairies de s'engager avec nous sur cette action. Que chaque maire puisse décider de façon individuelle avec son conseil municipal sans regarder si le copain d'à côté le fait ou pas. On veut vraiment que chaque mairie soit indépendante sur ce sujet là on a demandé aussi des demandes de subvention au conseil départemental de la Mayenne qui sera étudié apparemment au budget primitif de 2021. On a demandé une subvention à la ville de Laval où est le siège de l'association. Donc c'est vrai qu'on veut que ça soit pas qu'une initiative citoyenne, que ça soit aussi une initiative des mairies qui sont que leur budget est bouffé par cette problématique-là en faisant des maisons de santé pluriprofessionnelles, parce que bah, c'est sûr que bah, c'est beau pendant les campagnes électorales, je vais faire une belle maison médicale, oui, mais s'il n'y a pas de médecin dedans, c'est pas comme ça. Et puis c'est pas dans cet ordre-là, c'est les médecins, les infirmiers, les kinés qui doivent se réunir autour d'une table, avoir un projet de soins, demander des aides aux mairies, aux collectivités territoriales, etc. pour faire cette maison de santé. Faut pas que ce soit la mairie qui dit « Allez, je fais mon beau bâtiment et puis après je mets des médecins dedans. » Ça marche pas comme ça.
Donc dans l'autre sens, en fait,
c'est
que
ça.
La logique se fasse dans l'autre sens. Merci en tout cas, Maxime Lebigot, d'avoir été avec nous. Donc on le rappelle, vous êtes le président de l'Association des citoyens contre les déserts médicaux. Avec Borderline sur l'autre radio. Nouvelle série cette semaine dans l'agité du local avec Christophe Piquet. À la retraite depuis un an, cet agriculteur d'Azé s'est converti au bio il y a une dizaine d'années. Et plus récemment, celui qui est céréalier mais aussi éleveur a planté un millier d'arbres sur l'une de ses parcelles. Nous nous sommes rendus avec lui sur place.
Donc on entre dans une parcelle de 32 hectares que j'ai dévastée dans les années 80. Il restait encore des chemins, des petites parcelles et des haies, beaucoup de haies, beaucoup d'arbres. Et bien aujourd'hui, on commence à apercevoir les petits parce qu'on a, il y a 2 ans, replanté 1000 arbres dans cette parcelle en agroforesterie. Mais c'était une parcelle, pour moi, qui allait à la catastrophe parce qu'on allait subir l'érosion. Il n'y avait plus de biodiversité du tout. Il n'y avait plus d'animaux à la pâture, il n'y avait plus de prairies, il n'y avait plus que de la céréale et des pesticides. Il y a 11 ans, j'étais dans un virage de ma vie, à la naissance de mes petits-enfants, je me suis posé beaucoup, beaucoup de questions. La première, comme beaucoup d'hommes sans doute, est-ce qu'on est sur cette planète pour juste profiter? Et ça m'a interpellé vraiment, ça m'a beaucoup tourmenté. Et quand j'ai vu mes petits-enfants, je me suis oublié complètement. Je dirais même que aujourd'hui, quand on s'oublie, c'est là que le bonheur démarre. Quand on fait quelque chose qui, sans doute, va pouvoir servir aux générations futures, j'étais encore avec les pesticides, j'étais encore avec le productivisme. J'ai toujours été coupé en deux, mais là, vraiment, à la naissance des petits-enfants, j'avais plus que honte. Donc, la première étape, ça a été la conversion en bio. La deuxième, c'était de réintroduire un élevage sur l'exploitation. Elle était entièrement en céréales. Et puis, c'était de semer des prairies, de replanter des haies. Et puis, il y a 2 ans, je voyais que ça ne suffisait pas encore. On a décidé avec mon fils Antoine, et c'est surtout lui qu'on doit récompenser aujourd'hui, parce que de faire de l'agroforesterie, c'est pas rien. Il faut vraiment, vraiment le vouloir. Hein. C'est un changement complet de métier. Aujourd'hui, avec les arbres, les rangées d'arbres, il y a une rangée tous les 30 mètres. Il y a beaucoup d'entretien. Il faut protéger les haies avec des clôtures de chaque côté. Il faut entretenir entre les arbres sur les rangées. Il y a un arbre de planté sur les rangées qui sont espacées de 30 mètres. Il y a un arbre de planté tous les 8 mètres. Donc, pour parler d'agroforesterie, c'est des arbres qui sont de la région. C'est des semences qui ont été récupérées. Les glands, les châtaignes, les noix ont été ramassées et sélectionnées et mis en pépinière dans la région. Donc, c'est quelque chose de local. Beaucoup de personnes m'ont interpellé avec les bambous et avec l'agroforesterie que nous allons consommer de l'eau. Mais je pense que depuis le monde est monde, l'eau a toujours servi à abreuver, que ce soit les humains, les animaux ou la végétation. Il n'y a pas pire qu'une terre nue. L'érosion se fait aussi bien l'été par la sécheresse et le vent que par le trop d'eau l'hiver. Donc, il nous faut absolument du couvert partout, partout, partout. On est tous les ans, en train de perdre beaucoup plus d'arbres qu'on en plante. Moi, je pense que seul l'arbre a la possibilité de nous sauver.
Et on le verra demain, les avantages de l'agroforesterie sont nombreux. Mais avant ça, jetons un œil sur l'agenda de cette semaine avec toute une exposition autour du feutre, cette matière textile donc, qui s'expose jusqu'au 25 octobre. L'exposition Méduline de José Ménard, c'est à la Maison Rigolote de Laval. Vous pourrez y retrouver différentes sculptures originales faites de feutres de laine et d'autres fibres, un jeu de textures créant des œuvres en plusieurs dimensions. Le cinéma Vox à Mayenne propose un cycle de films locaux et ce jeudi proposera notamment un ciné-concert intitulé Orly, où deux artistes réalisateurs mayennais ont réinterprété le film La Jetée de Chris Marker en refaisant la voix off, le texte et en accompagnant le tout d'une guitare électrique, à retrouver donc ce jeudi 15 octobre à 21h. Et rendez-vous ce vendredi pour une réunion d'amis inoubliable, c'est ce que propose la pièce de théâtre Illusion à la salle polyvalente de Parçay-sur-Sarthe à 20h30. La troupe de la compagnie Ostinato présentera l'adaptation du texte d'Ivan Viripaev, Là où les illusions tombent une à une. Pour réserver, vous pouvez envoyer un mail à billetterie@lentracte-sablé.fr. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour aujourd'hui. À suivre à 19h, Solénoïde. À 20h, la discothèque du programmateur, suivie à 21h d'une rediffusion de All Blues, l'émission du 17 septembre exclusivement féminine. Et quant à moi, donc, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition de L'Agité du Local. Rendez-vous à 12h15. D'ici là, passez une bonne journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.